Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient, comme tous les jours RFI vous donne la parole et dans 30 minutes nous parlerons de l'épidémie de fièvre Ebola. D'ailleurs nous prendrons dans un instant plusieurs questions sur cette épidémie dont la présence a été confirmée il y a maintenant 3 semaines en Guinée. L'épidémie s'est étendue au Libéria, le dernier bilan fait état de 111 morts, des cas suspects ont été recensés en Sierra Leone et au Mali. En tout cas c'est la première fois que l'Afrique de l'Ouest est confrontée à ce virus. D'ailleurs plusieurs pays voisins de la Guinée ont déployé des équipes sanitaires à leurs frontières. C'est le cas par exemple du Sénégal qui a même décidé de fermer sa frontière. Alors quel regard portez-vous sur la gestion de cette crise sanitaire? Pensez-vous que le dispositif de lutte et de prévention de la maladie est suffisamment efficace? Estimez-vous être suffisamment bien informé, vous qui nous écoutez en ce moment en Guinée mais aussi dans les pays limitrophes? Vous nous rejoignez, vos témoignages nous intéressent et nous avons déjà plusieurs témoignages en attente au standard 33 9 693 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. Et vous continuez également à nous poster vos réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Encore beaucoup de questions sur le Rwanda qui commémore, vous le savez, ces jours-ci, le 20e anniversaire du génocide. Bonjour Sonia Rollet.
Bonjour.
Merci une fois de plus d'être à mes côtés ce matin pour répondre à quelques-unes de ces questions. Vous êtes journaliste, je le rappelle, au service Afrique d'RFI. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour Anne.
Vous nous appelez de Sartrouville, vous êtes en région parisienne, nous vous écoutons.
Ma question, c'est pour l'attentat de l'avion du défunt président Habyarimana. Mm-hmm. Pourquoi il n'y a jamais eu de suivi de cet attentat? Qui sont les responsables? Ça n'a jamais abouti.
C'est vrai qu'il y a eu plusieurs enquêtes, Sonia Rollet, sur cet attentat qui, rappelons-le, est considéré comme le déclencheur du génocide. Il y a eu d'abord une procédure de l'ONU, puis il y a eu ensuite l'enquête française.
La procédure française, oui. Alors en fait, effectivement, ça faisait partie, en tout cas, des événements qui auraient pu être jugés par le TPIR. En tout cas, il y avait...
Tribunal pénal international
pour le Rwanda, puisqu'on parle quand même d'un attentat qui a coûté la vie à deux présidents en exercice, le président rwandais et le président burundais. C'est quand même rare que deux présidents meurent dans un même attentat. Donc effectivement, le TPIR avait aussi mandat pour le juger, mais la seule vraie enquête qui existe aujourd'hui, ou en fait enquête procédure judiciaire aboutie, on va dire, pas encore aboutie, mais on l'espère en tout cas, c'est la procédure française. Cela vient du fait effectivement qu'il y avait
de l'équipage étaient français,
qui étaient français et qui ont donc pu porter plainte, et puis évidemment la famille du président Habyarimana, qui est aussi basée en France. Donc, l'enquête a été ouverte à la fin des années 90. Ensuite, c'est le juge Bruguière, bien connu, le juge antiterroriste, qui a ouvert cette enquête, qui a rendu un rapport, d'abord, les premières conclusions étaient rendues en 2004, ont filtré par le journal Le Monde. Et dans ces conclusions, il accusait l'entourage du président Kagame d'avoir été responsable de cet attentat. Il y a 9 mandats d'arrêt qui avaient été lancés contre vraiment des responsables du régime rwandais. Et puis, petit à petit, en fait, il y a eu une remise en cause de cette théorie, notamment avec la nomination d'un nouveau juge, le juge Trévidic, qui
lui reprend le dossier à zéro.
Il reprend le dossier à zéro, il essaie de faire une enquête balistique. Il garde quand même les éléments de la procédure Bruguière, évidemment, dans son dossier, puisqu'il y a quand même des témoignages, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait certains témoignages, notamment à cause du traducteur qui s'appelait Singaïe et qui était une personne de l'ancien régime. Et donc, forcément, ça a été un peu mis en cause de dire, bon, si le traducteur est quelqu'un de l'ancien régime, proche des extrémistes ou tout, ça peut être problématique. Donc, il y a des éléments comme ça qui font que l'enquête est considérée comme peut-être pas suffisamment étayée. Le juge Trévidic a décidé de faire une étude balistique. Également, a été décidé, mais parce qu'il y avait le rapprochement franco-rwandais, qu'on allait inculper pour leur permettre de voyager les responsables du régime rwandais, et que l'État rwandais allait devenir partie civile, ce qui est très particulier, puisque ce sont les personnes qui sont dans l'État rwandais, qui sont accusés, et que l'État rwandais, devenant partie civile, il a accès au dossier et à tous les actes du juge très vidiques, de manière comme n'importe quelle partie civile. Et puis finalement, alors surtout l'important, c'est cette expertise balistique qui en 2012 a montré que les tirs proviendraient du camp Kanombé. Donc il y avait deux théories. Théorie que ce serait le FPR et...
Ça c'est la théorie Bruguière.
Voilà, c'est la théorie Bruguière. Et donc une autre possibilité, c'est que ces tirs viennent du camp Kanombé, c'est-à-dire du camp de la garde présidentielle de l'armée, et que ce soit donc des extrémistes hutus qui aient décidé de descendre l'avion du
donc,
président
Habyarimana. Donc deux thèses diamétralement opposées.
Voilà, deux thèses diamétralement opposées. Il se trouve que l'expertise montre que les tirs proviendraient de la zone du camp Kanombé, et donc que ce serait plutôt, ça pourrait être plutôt, en tout cas, même si le juge n'a pas choisi en termes d'acteur ou d'auteur de cet attentat, les extrémistes hutus.
Voilà, à suivre donc. Sonia, reste avec nous. Jean-Claude nous rejoint, il est à Kinshasa. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons.
Oui, Juan, j'ai quelques préoccupations. Et dernièrement, la coalition des partis politiques rwandais pour le changement, PPC en sigle, qui est basée en Belgique, a sollicité l'ouverture des négociations politiques en vue d'une transition au Rwanda. Alors, comment cela a-t-il été reçu ou perçu par les autorités de Kigali?
Alors, Sonia Rollet, on rappelle que cette coalition regroupe quatre partis de l'opposition en exil. Comme le disait Jean-Claude, effectivement, elle a été créée récemment. Je crois que c'était le mois dernier même, hein.
Oui,
à Bruxelles, hein, à Bruxelles, en Belgique. Comment le président Kagame et son entourage ont-ils réagi à cette coalition et surtout à la proposition de cette coalition, à savoir entamer des négociations politiques en vue d'une transition?
Tout simplement parce qu'il y a les FDLR, donc les rebelles hutus rwandais, qui sont dans cette coalition. Le gouvernement considère qu'il ne peut pas discuter avec cette rébellion, dont certains des dirigeants seraient des génocidaires, et notamment Sylvestre Moudalchoumoura. Et donc, il n'est pas question de discuter avec des gens qui s'associent au FDLR, même si, effectivement, la figure de proue de cette coalition, c'est Faustin Touadéra Mungu, qui est l'ancien premier ministre du FPR, un ancien premier ministre du FPR, donc d'après le génocide. Mais ça ne suffit
donc
puisque...
Pas de dialogue avec cette coalition et le parti au pouvoir.
Pas de dialogue avec cette coalition, et je pense que cette coalition espère que peut-être la Tanzanie se positionne là-dessus, puisque la Tanzanie, le président tanzanien avait dit l'an dernier que ce serait bien pour le président Kagame de discuter avec son opposition armée, notamment les FDLR, donc peut-être de profiter d'un soutien d'un pays tiers pour pousser à ces négociations, mais pour l'instant... suite à cet appel, il n'y a pas eu de réponse ni d'engagement d'un État tiers pour permettre ce dialogue.
On va continuer à parler politique au Rwanda. Bonjour Frédéric.
Bonjour Anne Gomez.
Vous nous appelez de Bruxelles.
Oui, je vous appelle. La question est presque avalée par la présidente. Je voudrais savoir, en fait, l'opposition rwandaise. Il y a une opposition rwandaise. Je voudrais savoir quelle a été sa position par rapport aux déclarations du président rwandais, les dernières déclarations dans Jeune Afrique concernant l'implication française, et comment elle était organisée, parce qu'on ne l'a pas entendu, cette opposition interne du Rwanda, on l'a pas entendu. Et quelle a été son part pendant la commémoration du génocide, quelle a été son rôle en fait, c'est ça ma question.
Sonia Rollet, Frédéric a raison, on entend davantage l'opposition en exil que celle sur place au Rwanda. Existe-t-elle?
Évidemment, il y a le de manière assez limitée, disons. Il y a une partie des FDU de Victoire Ingabire. Il faut rappeler que Victoire Ingabire est en prison, qu'elle est allée en prison juste avant l'élection présidentielle. D'ailleurs, comme beaucoup de dirigeants de partis politiques d'opposition qui avaient décidé de rentrer qui se sont retrouvés arrêtés, puis ensuite jugés, donc juste avant l'élection présidentielle de 2010.
Juste une parenthèse, Sonia, arrêtés et jugés, pour quel motif?
Alors, il y a notamment divisionnisme, il y a terrorisme, association criminelle, enfin il y a beaucoup de chefs d'accusation, et toutes ces arrestations de responsables de l'opposition qui ont voulu rentrer pour participer au jeu démocratique et effectivement critiquées par toute la communauté internationale internationale. Il y a aussi donc il y a quand même des représentants des FDLU qui restent à Kigali, mais qu'on entend assez peu. Il y a aussi des représentants du Parti Vert qui a eu du mal à se faire enregistrer. On n'est jamais très sûr qu'ils soient complètement homologués par le pouvoir. Et c'est vrai que le représentant spécial pour la liberté d'association l'a montré par une visite à Kigali que effectivement il y avait un problème d'ouverture d'espace politique. De toute façon, tous les rapports des droits de l'homme le disent. Il y avait un problème au niveau de la société civile, de l'opposition. Et donc, c'est vrai qu'on ne les voit pas apparaître presque jamais, que ça soit dans les commémorations ou effectivement pas de très peu de prise de position publique. Et sur les propos qui ont été tenus par le président Kagame, là aussi, il y a la réaction, en tout cas de tous les responsables d'opposition avec lesquels j'ai pu parler, c'est de dire tout simplement que c'était une diversion. Ces propos du président Kagame, une diversion, jeter l'opprobre sur la France pour faire oublier que lui-même est très critiqué en termes de droits de l'homme et notamment sur les attaques des opposants et qui commence de plus en plus à être isolé. Donc l'analyse que faisaient ces leaders d'opposition, c'était qui étaient surtout en exil, c'était de dire voilà, il fait une provocation pour faire oublier et pour empêcher la presse de voir qu'en fait il y a des problèmes au Rwanda.
Merci beaucoup Sonia Rollet d'être venue une fois de plus dans ce studio. Frédéric, bonne journée à Bruxelles, merci de nous écouter. Il est 10h21 ici à Paris, vous nous appelez, vos questions évidemment nous intéressent. N'attendez pas le début de l'émission pour nous rejoindre, sachez que vous pouvez le faire tout au long de la journée. Le standard reste ouvert, au pire vous tombez sur le répondeur, donc vous nous laissez vos coordonnées et nous vous rappellerons. Beaucoup de questions et on en parlera tout à l'heure de cette épidémie de fièvre Ebola. Marie-Christine Ferrier est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la réponse aux urgences à Médecins Sans Frontières. Rappelons que MSF est très actif depuis la découverte de cette épidémie. Vous avez, je crois, déployé en Guinée une équipe d'une cinquantaine de personnes.
Oui, c'est ça. On a une cinquantaine de médecins infirmiers spécialistes en hygiène et sanitation qui sont en Guinée, à côté des autorités guinéennes, pour pouvoir répondre à cette épidémie d'Ebola.
Alors, on va donner la parole à nos auditeurs tout à l'heure sur le dispositif de lutte et de prévention de la maladie. On va leur demander également s'ils ont l'impression d'être suffisamment bien informés, de voir aussi comment en Guinée, mais aussi dans les pays limitrophes, ils vivent cette épidémie de fièvre Ebola. Mais d'abord, questions, on en a beaucoup, des questions, on va en prendre quelques-unes ce matin. La première nous vient justement de Conakry. Bonjour soirée.
Bonjour Juan, bonjour à tous les fidèles auditeurs des RFI.
Nous vous écoutons.
Alors, je suis surpris d'entendre un malade d'Ebola dire qu'il a été guéri. Je voudrais savoir s'il y a une possibilité de guérir cette maladie d'Ebola alors que officiellement il n'y a pas de médicament spécifique pour ce virus Ebola.
Et c'est un commentaire qui revient souvent, Marie-Christine Ferrier, je l'ai vu là tout à l'heure sur la page Facebook de l'émission. On nous dit qu'il n'y a pas de traitement et pourtant, et on l'a entendu ce matin sur notre antenne dans un reportage de notre correspondant à Conakry, Sidi Yansané, deux femmes en l'occurrence qui ont été guéries. Comment est-ce possible alors ?
Expliquez-nous. Oui, écoutez, c'est vrai que le virus Ebola qui est présent en Guinée actuellement, c'est le virus, la souche Zaïre, qui est une souche très virulente et qui malheureusement tue au début en tout cas 9 patients sur 10. Mais comme vous l'avez dit, il y a des gens qui survivent malgré le fait qu'il n'y ait pas de traitement. En fait, ces gens arrivent à fabriquer des anticorps, donc leur corps va pouvoir à un moment donné, si on l'a bien réhydraté, si on a pu donner des soins appropriés à ces patients, le corps va être suffisamment fort à un moment donné pour pouvoir fabriquer des anticorps et combattre lui-même avec ses anticorps le virus Ebola.
Donc si je comprends bien, les chances de survie augmentent lorsqu'on s'hydrate.
Pas nécessairement, ça dépend de la charge virale aussi. D'accord, il y a toute une série d'autres facteurs qui interviennent. Mais si on laisse le patient sans soins, c'est sûr qu'il va mourir parce qu'il n'aura plus la force de son corps sera trop faible pour pouvoir fabriquer ses anticorps. Donc si on s'occupe des patients, ils ne vont pas tous survivre malheureusement, mais on donne quand même une chance à plusieurs de pouvoir fabriquer ses anticorps et combattre eux-mêmes le virus. Et puis c'est important d'avoir ces patients, prendre charge de ces patients parce que il faut que les gens puissent être accompagnés et ne pas être seuls aussi dans ces moments difficiles.
Évidemment. Ousmane, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan.
Vous nous appelez de Paris, nous vous écoutons avec Marie-Christine Ferrier de MSF.
Merci. Voilà, je voulais savoir juste pourquoi jusqu'à présent on ne dispose pas de vaccins pour traiter cette fièvre Ebola.
Mmh.
Et la deuxième question, que peut-on faire pour aider les malades vu qu'on n'a pas le vaccin et quels sont les traitements possibles?
Alors, pas de vaccin, c'est une chose, ni traitement, Marie-Christine Ferrier.
Voilà, donc le vaccin est en cours de recherche, hein. Il y a de la recherche et ça avance quand même pas mal, je dirais, d'une épidémie à l'autre. Les chercheurs vraiment font un maximum pour pouvoir mettre au point un vaccin, donc c'est en cours, mais ce n'est pas encore disponible. Et par rapport au traitement, non, il n'y a pas de traitement, donc c'est vraiment, comme je l'expliquais précédemment, c'est de pouvoir garder le patient bien hydraté, de pouvoir lui donner, diminuer sa souffrance, diminuer la température, et espérer que ce patient ait assez de force pour, à un moment donné, fabriquer ses anticorps.
Marie-Christine Ferrier, aujourd'hui, l'unique moyen d'essayer de casser la chaîne de transmission, c'est d'isoler le malade, malades.
Oui, je sais que ça fait assez peur aux populations quand on parle d'isolement, mais c'est de mettre le patient dans un endroit où il va d'abord pouvoir avoir des soins, être accompagné, et mettre sa famille comme ça à l'abri d'une contamination. Parce que la contamination se fait par contact très rapproché, et donc les personnes d'une famille où il y a des cas confirmés sont vraiment à risque, parce que voilà, ils vont s'occuper du patient, et ils sont là à risque de se contaminer.
C'est vrai que quand on parle d'isolement, et vous en avez été, pas vous personnellement, mais MSF, témoin et victime, j'ai envie de dire, de ces populations qui se méfient du personnel soignant, puisqu'à Macenta, dans le sud de la Guinée, les installations de votre ONG ont été attaquées par des manifestants qui accusaient l'ONG d'avoir importé le virus.
Oui, c'est pas la première fois sur une épidémie d'Ebola qu'on intervient, et malheureusement on a eu dans différents pays ce genre de réaction qu'on comprend tout à fait. C'est une maladie qui fait peur, on en parle beaucoup sur les ondes, ça fait peur, et donc la population ne comprend pas. Et donc il faut arriver à bien expliquer ce qui se passe. C'est sûr que les équipes de Médecins Sans Frontières sont vraiment là pour aider les populations, et elles ne sont pas contre les populations, on est vraiment là pour être aux côtés des patients, aux côtés de nos collègues médecins guinéens, pour tous ensemble pouvoir arrêter cette épidémie. Et si la population n'est pas à bord, si la population n'a pas confiance, ça va mettre plus de temps et ça va compliquer les choses.
Ouais, vous avez dû, à un moment donné, suspendre vos activités à Macenta, puis bon, il y a eu des pourparlers, des négociations avec la population, et MSF a pu revenir sur place. Marie-Christine Ferrier, je regarde la pendule, il nous reste à peine le temps d'accueillir un dernier auditeur. Alexandre, bonjour.
Bonjour, Anne.
Vous êtes à Ouagadougou, au Burkina. Nous vous écoutons.
Exactement. Je voudrais savoir l'origine du virus Ebola. Et comment est-il apparu en Guinée?
Alors, comment est-il apparu en Guinée? On n'a peut-être pas la réponse, mais peut-être déjà un mot sur l'origine même, puisque bon, on nous dit que le virus a été identifié en 76, c'est bien ça, à l'époque c'était le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, mais dans quelles circonstances? Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout cela, Marie-Christine Ferrier?
Il y a encore beaucoup de recherches à faire sur le virus, encore un virus un peu mystérieux, je dirais. On pense que les chauves-souris sont soit vecteurs, soit réservoirs même de ce virus. Et donc, sans doute en se déplaçant, certaines, pas toutes les chauves-souris sont infectées, apportent ce virus dans différentes régions. Et le virus peut dormir pendant très longtemps et tout d'un coup, on ne sait pas encore pourquoi, apparaît. Donc il y a encore beaucoup de recherches à faire aussi à ce niveau-là. C'est en cours, mais voilà, ça prend du temps. Et c'est un virus assez compliqué de comprendre comment il fonctionne.
Et puis là, il apparaît à 2500 kilomètres de la zone habituelle, puisque c'est un virus qui sévit essentiellement en Afrique centrale. Et là, c'est la première fois qu'on le découvre en Afrique de l'Ouest.
Oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que bon, là, les populations au début, on n'a pas reconnu très vite ce qui se passait, puisque ce n'était pas habituel. Et donc ça a pris un certain temps avant de qualifier cette épidémie. Et pourquoi il est arrivé là? Bon, là je pense qu'il va falloir des recherches là-dessus. Pour le moment, les moyens sont surtout mobilisés pour aider les patients et stopper cette épidémie.
Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il faut identifier d'abord les symptômes, et c'est vrai que les symptômes sont quand même un peu insidieux, puisque ce sont les premiers signes ressemblent finalement à une sorte de grippe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marie-Christine Ferrier de MSF. Dans un instant, le journal, et dans 10 minutes, nous serons de retour pour vos témoignages, vos réactions sur cette épidémie de fièvre Ebola.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.